La schizophrénie, la remédiation cognitive, le confinement, c'est la règle de trois de Nicolas Franck. Très vite, il se spécialise dans l'étude et le traitement de la schizophrénie. À 30 ans, il soutient une thèse de médecine sur les hallucinations, l'un des symptômes de cette maladie psychiatrique. Docteur en sciences cognitives, il présente 3 ans plus tard une autre thèse spécifiquement consacrée à la schizophrénie. Chercheur, professeur à l'université, Nicolas Franck exerce au centre hospitalier Vinatier en banlieue de Lyon. Considéré comme l'un des plus grands experts dans son domaine, il a également publié 3 ouvrages qui permettent de mieux comprendre la maladie.
Les patients schizophrènes ressentent des choses qui ne sont pas en rapport avec ce qui se passe dans l'environnement. Ils entendent des voix. Ils ont l'impression qu'on les contrôle, qu'on les influence à distance. Ça, c'est très typique de la schizophrénie.
Pour traiter ces patients, Nicolas Franck s'intéresse de près à la remédiation cognitive, une technique qu'il a développée au début des années 2000 et qui fonctionne grâce à des exercices de stimulation cérébrale.
On sait que justement, il y a à peu près 80% des patients atteints de schizophrénie qui ont des altérations au niveau de la cognition, donc la mémoire, l'attention, l'attention visuo-spatiale. Donc du coup, c'est des outils vraiment spécifiques pour essayer de retravailler ça.
Fondateur et président de l'Association francophone de remédiation cognitive, Nicolas Franck crée également une formation sanctionnée d'un diplôme universitaire pour maîtriser cet outil thérapeutique. Son livre décrit les conséquences du confinement du printemps dernier sur la santé mentale. En introduction, il cite Rousseau, isolé en 1765 sur une île du lac de Bienne en Suisse. De quoi jouit-on dans une pareille situation? De rien d'extérieur à soi, de rien sinon de soi-même et de sa propre existence. Rousseau, lui, avait bien surmonté cette épreuve, mais le confinement a causé de nombreuses souffrances. Nicolas Franck évoque en particulier les étudiants, les personnes en situation de précarité économique, les invalides et ceux qui étaient malades avant la crise. Je souhaite que la lecture de ce livre plaide pour que la santé mentale soit prise en compte au premier chef dans la gestion d'une future épidémie ou de la résurgence de celle-ci.
Ce livre, le voici chez Odile Jacob, Covid-19 et détresse psychologique, professeur Nicolas Franck. Vous avez donc, dès le mois de mars, dès le printemps, dès le premier confinement, engagé une vaste étude avec 20 000, non pas cobayes, on ne va pas les appeler cobayes, mais 20 000 volontaires.
Participants, tout
oui,
à fait.
C'est ça.
En fait, 20 000, quand j'ai lancé l'étude, je ne savais pas qu'il y en aurait 20 000. En fait, je me suis dit, écoutez, c'est un événement mondial qui va stresser tout le monde. Il faut tenter de comprendre les choses. Qu'est-ce qui va permettre de supporter cette épreuve? Qu'est-ce qui va fragiliser les personnes? Donc, j'ai lancé avec quelques collègues cette enquête dès la deuxième semaine de confinement. Et nous avons eu beaucoup d'informations très utiles.
Donc, vous avez fait part à l'instant. Il en est ressorti donc que les populations les plus touchées, les personnes isolées, les personnes handicapées et les étudiants.
Les personnes qui ne travaillent pas, les étudiants tout à fait, qui sont loin de chez leurs parents, qui vivent volontiers seuls, qui n'ont plus pu voir leurs camarades, qui n'ont plus pu ni aller à l'université, ni dans les bars, ni chez leurs profs, qui se sont retrouvés très seuls et qui souffrent particulièrement du deuxième confinement qui reproduit la situation du printemps.
Alors quels effets psychologiques, de l'insomnie, de l'anxiété, quel type d'effets ont été enregistrés, évoqués, de quoi ont-ils témoigné?
Alors, dans l'étude, nous avons abordé la question du mal-être. Après, ce mal-être peut déboucher sur des manifestations symptomatiques telles que de l'irritabilité, des troubles du sommeil, une tension psychique, l'impossibilité de se projeter. Et puis, petit à petit, ça peut aller vers une dépression qui se constitue vraiment de manière nette ou vers un trouble anxieux.
Mais alors, il y a aussi des chiffres. Vous avez constaté une explosion de l'usage des tablettes, plus 69%, une explosion de, j'allais dire la mangeaille, non, du gras et du sucre que l'on a consommé beaucoup plus, et une explosion aussi de l'alcool, plus 18%.
Oui, complètement. Alors, par rapport aux écrans, c'est pas tellement étonnant, c'était le mode de communication. Et l'être humain est particulièrement sensible à...
Et les enfants travaillaient sur écran aussi pour suivre les cours à distance, donc ils étaient...
Quand ils en avaient.
Quand ils en avaient. Et vous évoquez l'addiction qui est un problème.
Oui, là, ce qu'on a montré, c'est une perte de contrôle pour une personne sur 6. Alors, effectivement, pour les enfants, ça a été catastrophique pour une partie d'entre eux, même pour des adultes. Parce qu'effectivement, désœuvrés, en perte de repères, les gens se replient sur ce qu'ils peuvent faire. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Regarder des séries, faire des jeux vidéo ou consommer des substances toxiques, comme vous l'avez dit.
Claude.
Les gouvernants gouvernaient, les soignants soignaient. Le reste de la population, je ne parle pas des gens qui travaillaient dans des postes essentiels, a pu se sentir totalement inutile, perdre une estime de soi.
Effectivement, les personnes qui se sont retrouvées très isolées, qui n'ont pas pu exprimer leur solidarité, ont pu se sentir inutiles. Et c'est un élément de plus en faveur de la dépression.
A contrario, les soignants, qui étaient au cœur du dispositif, qui soignaient, qui sauvaient des vies, qui étaient donc dans ce qu'on appelle l'utilité sociale, même s'ils ont été en proie à des fatigues absolument terrassantes, n'ont pas été en proie à des problèmes psychiques, de l'ordre de la dépression, de l'anxiété. La peur, oui, mais pas les autres.
Ils ont pu l'être, ils ont pu être épuisés, ils ont pu présenter des symptômes de stress post-traumatique, surtout ceux qui ont été exposés à la mort, les réanimateurs, les infirmiers de réanimation ou d'autres personnels de santé. Mais en tout cas, ils se sont tous sentis utiles. C'était particulièrement exceptionnel d'être applaudi tous les soirs au printemps. On n'avait jamais vu ça. Dans d'autres épidémies antérieures, les soignants étaient plutôt considérés comme des facteurs de contamination, des vecteurs du virus ou de la bactérie en question. Là, les soignants étaient dans une espèce d'euphorie, de portage collectif national. C'était très exceptionnel.
C'était plus qu'une illusion. Ça a été utile, ces applaudissements de 20 heures.
Ah, très utile, oui.
Qu'est-ce que vous entendez par « le confinement a fait de nous des petits oiseaux » ?
Non, je n'ai pas écrit ça, non. Ça a été repris. C'est l'idée du stress. C'est l'idée du stress, voilà.
Et de la sidération.
La sidération, c'est la première étape que nous avons tous ressentie mi-mars. C'est quand tous nos repères changent, on se retrouve dans des circonstances de vie complètement différentes de celles que nous avons habituellement et que nous sommes perdus. Ça, c'est la sidération, première étape du stress. Et puis après,
comme un
nous
petit
adaptons.
Oiseau devant un serpent.
Voilà, comme un petit oiseau devant un serpent.
Nadia, oui. On évoque avec vous des très mauvais chiffres qui peuvent donner à croire qu'un troisième confinement produira peut-être en janvier.
Effectivement, le déconfinement sans le sapin ou encore défaite de fin d'année, ce sont les titres du journal Libération ce matin pour décrire ce qui nous attend peut-être, puisque Emmanuel Macron avait fixé des objectifs très précis pour la levée des différentes restrictions. Et il avait pris toutes les précautions du conditionnel. Le 15 décembre, si nous sommes bien arrivés autour des 5000 contaminations, alors le confinement pourra être levé. Le problème, c'est qu'on est à une semaine de cette date et on est très loin des objectifs. La moyenne, elle est encore environ de 10 000 contaminations par jour. Et on voit bien, là, depuis hier, que le gouvernement prépare les esprits en distillant plusieurs scénarios, un couvre-feu ou alors un confinement repoussé. Est-ce que c'est ça le plus dur pour nous tous collectivement, psychologiquement, l'incertitude, ne pas pouvoir se projeter, ne pas savoir ce qui nous attend dans 2, 3, 4 semaines. C'est ça qui est dur.
Ça fait partie des éléments effectivement de difficulté qui pèsent sur le moral des Français. Mais vous avez également l'isolement, le fait que les Français sont à distance les uns des autres, le fait de ne pas avoir nos repères habituels, le fait de ne pas pouvoir vaquer à nos occupations.
Et mais ce court-termisme, en fait, c'est pas ça qui pèse.
Le fait
aussi,
de ne pas pouvoir se projeter, oui, c'est un des paramètres, tout à fait. Ouais. Vous avez complètement raison. Et donc tous ces éléments pèsent sur le moral de la population et sont en faveur d'une dépression qui peut atteindre plus de personnes que d'habitude. Et le problème en santé mentale, c'est que les personnes qui vont mal n'ont pas forcément tendance à se plaindre spontanément. C'est quelque chose qu'on ne reconnaît pas, la santé mentale. C'est une dimension encore peu acceptée en France. Donc je pense qu'il y a vraiment besoin de communication nationale très vive, très forte, pour faire évoluer les mentalités et que la population prenne conscience que cette dimension est très importante.
Pendant la Grande Guerre, Clémenceau disait « Mon programme, je fais la guerre ». Est-ce qu'il est vraiment de l'ordre des obligations d'un gouvernement de veiller à la santé mentale de tout un chacun quand l'urgence est là et qu'on n'a pas trop le choix ?
Je pense qu'il faut veiller à toutes les dimensions de la santé, dont la santé mentale. Elle concerne 67 millions de Français. Vous pouvez avoir énormément de victimes. Bien sûr, on a la réanimation en priorité. Bien sûr, ce sont les détresses respiratoires. Mais c'est quelques dizaines de milliers de personnes qui seront passées en réanimation en France en 2020. Mais peut-être quelques centaines de milliers ou quelques millions qui auront un trouble dépressif ou un trouble anxieux. Il faut s'en occuper.
Dans combien d'années on pourra le mesurer ?
Dès l'année prochaine.
Professeur Franck, vous évoquez l'utilité pour nous de nous inspirer de l'exemple de Nelson Mandela qui a été incarcéré pendant 27 ans et qui a mis au point une sorte de stratégie d'ascèse qui lui a permis d'endurer cette incarcération.
Complètement. Ce type d'épreuve se prépare. Elle se prépare et elle se vit en reprenant de la maîtrise. Donc effectivement, Nelson Mandela, lui, c'était le sport qui l'a aidé. Mais on peut voir aussi l'exemple des astronautes qui structurent leur journée avec des tâches de communication, des tâches intellectuelles, des tâches éventuellement émotionnelles ou artistiques. Enfin, on a plein d'exemples très positifs. Et en tout cas, il faut préparer la population et l'accompagner pour qu'elle la vive mieux.
Et l'accompagner après pour que les séquelles ne soient pas trop dommageables. Merci professeur Franck. Covid-19, détresse psychologique, vient de paraître, une sorte de vade-mecum du prochain confinement, j'ai peur de le dire, aux éditions Odile Jacob.